Bonjour à toutes, bonjour à tous et à tous les privilégiés qui pendant une heure vont se régaler de cette bande originale version tongue. Et oui, au programme Michel Faux, François Berléand, Jean-Pierre Bacri, Carl Zéro, Marina Foïs et malheureusement la bande au grand complet. Le meilleur de la bande originale spécialité, c'est parti.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Michel Faux, la bande originale de votre vie en musique, vous écoutiez par exemple en 1986.
C'est pas tant la peur du tonnerre avec son grand zigzag, c'est pas tant la peur des années avec leur grand zodiac, c'est pas tant la peur de l'enfer avec son grand tic-tac, c'est pas tant la peur de l'hiver avec son grand callback.
Jeanne Moreau, La Peur, en 86, c'était vraiment la bande originale de votre... De ce moment de votre vie ou...
Ouais, j'étais fou de Jeanne Moreau. J'allais la voir au théâtre beaucoup et, parce qu'elle elle refaisait beaucoup de théâtre dans les années 80. Alors on a oublié d'ailleurs, parce qu'on parle toujours de Jeanne Moreau, on a oublié qu'elle a aussi joué du boulevard beaucoup et elle n'a pas joué que des auteurs intello. Elle avait une façon de parler, une sensualité, etc. Après, à la fin, c'était un peu la caricature d'elle-même, mais moi j'étais fasciné par. Par sa voix et son parcours, cette carrière exemplaire au cinéma et au théâtre est une carrière très audacieuse.
Vous entrez au conservatoire, alors ce qui est assez étonnant, c'est que vous avez autant de plaisir à jouer avec une Chantal Latsou qu'avec un Michel Bouquet. Et en fait, c'est un peu ça aussi vos débuts, c'est se dire au conservatoire, j'arrive, j'ai pas envie d'être enfermé dans les grands textes. Moi, je rêvais d'autre chose que de jouer du Coltès, en gros.
Oui, c'était Coltès, c'était l'auteur à la mode dans les années 80, donc ouais. Tout le monde jouait du Coltès en imperméable et pas éclairé. Moi, j'avais envie de jouer Topaz de Marcel Pagnol, donc j'étais déjà totalement has-been, quoi. Déjà, à 20 ans, j'étais has-been.
Et là, Gérard de Sarthe et Michel Bouquet, qui étaient vos enseignants...
Et Pierre Vial aussi.
Et Pierre Vial, n'ont pas cherché à vous orienter vers cette vision un peu codifiée que tous les acteurs avaient à cette époque-là?
Non, c'est drôle parce que Pierre Vial, on a travaillé sur une opérette d'Offenbach et je ne savais pas que après, j'allais monter des opérettes, donc il a annoncé ça, ce goût du théâtre musical. Et puis Bouquet, lui, il a été... parce que moi, je passais une scène de Fedot pour faire rigoler mes copains, et il m'a dit, c'est comme ça qu'il faut jouer le drame romantique. Alors, je comprenais rien, je dis, qu'est-ce qu'il raconte, le vieux? Il dit n'importe quoi. Et en fait, il avait tout compris sur le mélange du grotesque et du sublime, du tragique et du burlesque et tout ça, qui après a été mon fond de commerce.
C'est un métier qui s'apprend, la mise en scène.
Maintenant, il y a des écoles de metteurs en scène, mais avant, il n'y avait pas d'école de metteurs en scène. Je veux dire, Louis Jouvet, il n'a pas fait d'école de metteurs en scène. C'est important, moi, je trouve que le metteur en scène, même si après, il n'est plus acteur, mais qu'il ait quand même mis un pied sur une scène pour qu'il sache de quoi il parle.
Dans le Tartuffe, c'est confortable d'être à la fois partie prenante et...
Ben oui, parce que le Tartuffe, il entre au milieu du spectacle. Il arrive qu'au milieu de la pièce, en fait.
Donc, c'est une feignasse, en fait.
Absolument, c'est une grosse feignasse.
Ça tombe bien parce que Nagui arrive au milieu de la pièce aussi. Donc, il en a profité à 100%.
En 2000, première justement mise en scène pour Michel Faux et vous écoutiez.
C'est une immense chanteuse d'opéra qui s'appelle Teresa Stratas, qui est grecque, qu'on appelait le bébé Callas, et qui là chante du Kurzweil en fait. Elle est toujours vivante, mais elle ne chante plus. Et c'est ma passion pour l'opéra. Elle avait notamment fait la Traviata au cinéma avec Zeffirelli. Et elle a été la loulou d'Alban Berg, de Pierre Boulez et Chéreau. Et c'était une très très une bête de scène. Et j'ai appris des choses. Encore dans Tartuffe, il y a un moment donné où je rends hommage à Teresa Stratas, je la singe dans Salomé à un moment donné. Donc c'est quelqu'un qui... J'ai appris des choses sur l'acteur en voyant des chanteurs d'opéra en fait.
Et l'opéra vous accompagne au quotidien, chez vous, vous écoutez des opéras, vous mettez un peignoir de soie avec des bougies parfumées.
Pas loin, aujourd'hui je me suis lavé les fesses en écoutant La Flûte Enchantée de Mozart, c'est vrai.
Ça s'impose.
France Inter, la bande originale. Le best-of.
Quand vous êtes arrivé à 11h05, en apprenant de la bouche de GNB, notre rédac-chef, que vos invités étaient Eric Almosnino, enfin supposé, toujours en retard évidemment, et François Berléand, bonjour François, vous êtes écrié Almosnino à la rigueur, mais Berléand plus jamais. On l'a beaucoup trop reçu ici, c'est un monstre de narcissisme doublé d'un vieux cabot. À chaque fois, il me pique la vedette, alors débrouille-toi pour le refouler aussi violemment que tu refoules le Coulommiers. Je précise à l'intention des auditeurs qui ne le sauraient pas encore, JNB, rédac chef, est originaire de Coulommiers. Et quand il ouvre le bec, pas besoin d'être fromager pour deviner d'où il vient. Ça pourrait être Pont-l'Évêque, Maroilles, mais c'est bien Coulommiers, je peux vous dire que le sien, il n'est pas affiné. C'est du bruit. Mais, puisqu'on parle odeur forte, revenons à notre invité. Donc, votre invité, que malgré toutes vos préventions concernant François Berléand, vous vous êtes résigné à recevoir mon cher Nagui. À vrai dire, quand JNB vous a dit qu'il venait pour Ramsès, je vous ai vu sourire, l'air énigmatique. J'ai perçu dans votre regard comme une lueur venue d'un très lointain passé. Intrigué, je vous ai alors demandé si vous pensiez au troisième pharaon de la 19e dynastie, Ramsès le Grand, le bâtisseur, le conquérant, celui qu'en égyptien ancien on surnommait Ramessou Meriamon. Oh. Et là, Nagui, oui. Vous m'avez rétorqué. Mais pas du tout, maréchal. Je souris parce que Ramsès, c'est mon nom de scène au Nefertiti. Le cabaret transformiste où je me produis aussi, sous le nom de Phimosis IV.
Salut.
Une particularité qui vous concerne. Oui, Une fois de plus, je suis tombé de haut. Toutefois, avant de me retirer, comme disait ma femme, comme il me reste un peu du temps de parole imparti par mon CDI, je tiens à vous féliciter, François Berléand. À la différence de Nagui, moi je vous félicite. Je vous le dis incontinent, vous m'avez complètement bluffé en vous déplaçant sur scène en fauteuil roulant, comme si vous en aviez toujours fait. Idem pour le Mont-Escalier. Hein, là aussi, vous en avez toujours fait.
Ça va, maréchal ?
Oui. Non, mais...
Vous arrivez à vous relire ou il y a des problèmes de vue, là, en ce moment ?
C'est ma cataracte. Un peu gênant. Donc, Nagui m'a même dit que vous poussiez le réalisme jusqu'à porter la couche que vous portez d'habitude. Néanmoins, il manque un accessoire dans cette pièce pour faire encore plus réaliste. Une baignoire à porte. Donc, comme je dois bientôt changer celle de mon cabinet de toilette au vieux gland, mon hospice, elle a des fuites, un peu comme moi, l'autodérision.
Merci.
Donc, si ça vous intéresse, je vous fais un prix, François.
Merci. Quand je pense à vous, François Berléand, j'entends ça.
Ah, ça donne pas envie.
Eh ouais. L'école. J'ai pensé à l'école parce que quand j'ai un peu lu toutes les interviews qu'il y avait sur vous, quand vous parlez de l'école, ça a l'air d'être un traumatisme absolu. Vous parlez de votre entrée en sixième que vous ratez parce qu'on considère que vous ne savez pas lire.
Voilà. Mais non seulement on considère, mais c'était vrai, je ne savais pas lire. Techniquement, je savais lire, mais je ne retenais rien de ce que je lisais. Donc, j'étais cobaye de la méthode globale. Et j'ai bien un des cobayes de la méthode globale qui continue à sévir, malheureusement. Et même si on appelle ça de la semi-globale, mais enfin bon, on va pas rentrer dans ce débat-là. Mais, et donc, on m'a réappris à lire en sixième. Donc, ça m'a fait un peu de mal.
Parce qu'en fait,
humiliant.
Parce qu'on vous avait mis dans un cours particulier, en fait.
Voilà, après, j'étais chez les psys. Après, j'ai vu. C'est une psychothérapeute qui m'a réappris à lire.
Finalement, la boucle est bouclée avec Ramsès II, la pièce.
Pourquoi ? Je veux dire ça ?
Non, le côté psy, non.
Ah oui, non, mais de toute façon...
Les problèmes psychologiques sont présents dans la pièce.
Oui. Pas qu'à moi.
Non, mais alors, ce qui est étonnant dans l'histoire, c'est qu'on vous a placé avec des enfants qui ne savaient pas lire, qui souffraient de pathologies beaucoup plus graves.
Voilà, absolument. Et ça, c'était un peu plus tard, c'était en quatrième et en troisième.
Ça a été un parcours du combattant. Et vous êtes inventé à cette occasion une trisomie.
Voilà. Au départ, j'étais le fils d'homme invisible. Ouais. Et puis, après, comme je
suis rendu compte. Ce qui, je rappelle, n'est pas une vanne et vous l'avez écrit dans un livre.
Ouais, vous avez raconté.
Votre père, un jour, vous a dit, tu es le fils de l'homme invisible. Donc, vous l'avez cru au point de le raconter en classe, évidemment, de passer pour un starbé.
Voilà. Et donc, après, au sein d'un collège qui s'appelle le Collège Sainte-Barbe, qui n'existe plus, donc on peut en parler, mais qui était le plus vieux collège de France, il se trouve que, il y avait un cours de méthode Ramin. Que je ne conseille à personne.
Je ne conseille à personne.
Non, c'était une espèce de méthode de rééducation. Je dirais même pas d'éducation, mais de rééducation. Et enfin, quand j'étais avec tous les tarés de Sainte-Barbe, et là, c'est là où je me suis rendu compte que je devais avoir un problème puisque j'y étais. Et donc, je me suis effectivement inventé une trisomie. Donc, ça n'a pas été simple
à gérer.
Voilà, Et alors, il y a eu d'autres étapes dans la scolarité, parce que il y a le fils de l'homme invisible, il y a l'invention de la trisomie, et après, scolairement parlant, qu'est-ce qui...
après, scolairement parlant,
c'est un chemin.
Après, il y a eu la terminale, et il y a eu la rencontre avec un psy qui m'a sauvé. Voilà.
Terminale, vous avez 40 ans quand vous passez votre bac.
Voilà. Non, 39.
Oui, pardon. Tendance à arrondir comme idiot.
Non, 39. Et, Et il se trouve que, bah, après ça, je suis entré dans une école de commerce et que j'ai découvert le théâtre. Donc j'étais sauvé par le théâtre.
La rédemption la, par la, le même, théâtre.
A, oui, parce qu'il y a. Là, je ne suis pas tout seul à être.
J'ai trouvé des amis.
J'ai beaucoup d'amis. Là.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
La bande originale, c'est aussi du live, du bon, du haut, du fort, avec une reprise de Harvest Moon de Neil Young par Angus et Julia Stone. Rien que ça, rien que pour vous, les amis. On ne se moque pas de vous, les amis, c'était Harvest Moon de Neil Young, version Angus et Julia Stone. De l'élégance, de l'intelligence, tout l'inverse d'Alison Wheeler.
Bonjour, bonjour à tous. Bon, vous le savez peut-être pas, mais dimanche auront lieu les 20 km de Paris. Non, pas les 20 centimètres de Paris, ça c'est le dernier John B. Root que je vous conseille en 3D d'ailleurs. Les 20 km de Paris, c'est ma hantise chaque année et je fais un rejet total de cette manifestation. Mais Nagui, vous trouvez ça normal qu'il soit obligatoire d'effectuer les 20 km en courant? On est
c'est
d'accord, c'est du fascisme. Si on était vraiment dans un pays libre, on aurait droit d'effectuer les 20 km en voiture ou en métro, enfin comme on veut. En plus, ils vont encore bloquer les rues de la capitale comme si on pouvait pas faire courir les gens sur les trottoirs. Pour équilibrer, on devrait faire des journées sans piétons avec des courses de bagnoles sur les quais, je sais pas. Mais même aller juste regarder les coureurs du 20 km, ça relève de l'incompréhension pour moi. Déjà, le dimanche matin, moi, je préfère dormir. Mais alors en plus, si je dois me réveiller pour aller applaudir des gens que je connais pas et qui saignent des tétons, Je suis désolée, mais moi, ça me dégoûte de regarder des gens qui courent dégoulinant de sueur comme ça, les fesses en arrière, la bouche entrouverte. J'ai l'impression de voir leur tête quand ils font l'amour. Du coup, je me retrouve projetée dans l'intimité de 29 000 personnes en même temps, ça m'oppresse. Puis ça, c'est dans le meilleur des cas, parce que des fois, il y en a qui sont au bout de leur vie, qui s'oublient carrément et te font un supplément Sunday caramel en bout de course. Bah oui, c'est dégueulasse, mais la course à pied, c'est dégueulasse. Et la vie, c'est dégueulasse, croyez-moi. Courir dans un nuage de pollution, c'est écœurant, autant lécher la barre de métro directement. Et puis, le sport, ça me rappelle des mauvais souvenirs de collège. Je crois que j'ai un trauma avec la course à pied. Ça me rappelle quand j'étais obligée d'aller en EPS, à l'époque de mes premiers tampons. C'était compliqué. Toute ma scolarité, on m'a appelée passe-partout parce que je courais comme si j'avais des boyards entre les jambes, Biskina. Ça marque une existence. Et maintenant, les gens s'entraînent en permanence tout le temps. On ne peut plus faire un pas dehors sans croiser quelqu'un en train de se bousiller la santé en faisant du sport. Même pendant l'émission, j'ai remarqué que Daniel Morin faisait des exercices sur sa chaise pour se muscler le périnée. Daniel, tu sais que tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'as pas de périnée. C'est un conseil que je donnais à Leïla parce qu'elle a un nouveau mec en ce moment qui est plutôt TTBM. Et puis, il y en a marre de ce discours.
TTBM.
On t'expliquera la vie après.
Très très bien monté.
Ah ok, c'est pour
ça que je connais pas. De ce discours, ouais, faut être en bonne santé.
TTBM, vous connaissez Jean-Pierre?
Non, pas
TTBM.
Moi je vous l'offre, c'est gratos. C'est quoi ce discours? En plus, faut être en bonne santé. Mais vous êtes naïf, vous n'êtes jamais posé la question à qui profite que vous soyez en bonne santé. Hein. Regardez ce bon vieux Albert, pas une pompe, pas un abdo ces 40 dernières années, il se porte comme un charme.
C'est vrai.
Alors, pour protester contre cette dictature du bien-être, non, je ne serai pas au départ du 20 km de Paris, mais à l'arrivée, pour une distribution de pizza et de plaquettes de beurre pour les participants qui voudront récupérer l'intégralité des calories brûlées. Alors vive la culotte de cheval, bordel, nos passaranes.
France Inter, la bande originale, le best-of. He's a man with a plan. Got a counterfeit dollar in his hand.
He's Mr. Know-it-all. Stevie Wonder, c'est pas la plus connue en plus de Stevie Wonder. Vous êtes un fan de...
Je suis un fan absolu
de Stevie Wonder, c'est vrai?
J'adore ce mec, je trouve qu'il n'y a pas plus gracieux, plus belle voix au monde.
Et ce qui est fou, c'est que malheureusement, il ne sort pas beaucoup d'albums alors qu'il a...
Bah, il a raison.
Pourquoi?
C'est dommage. Parce qu'il a fait des belles choses et puis il prend son temps, il fait ce qu'il veut. Enfin, en tout cas, moi je... C'est un mec d'un talent fou. Enfin, moi, je connais personne, enfin, peu de gens qui chantent comme lui.
Et il est très actif politiquement aussi aux États-Unis, puisque la semaine dernière, il a donné un concert et il a mis le genou à terre.
Il a posé un genou au sol.
Voilà, pour montrer aussi la lutte des Afro-Américains contre Trump et contre tout ce qui se passe aux États-Unis, puisque maintenant, pendant l'hymne américain, ils se mettent un genou au sol pour marquer, encore une fois, la réprobation des violences policières. Ça, c'est juste pour resituer ce qui se passe dans l'actualité de Stevie Wonder. Mais en 74, là, il a dans la vie de Jean-Pierre Bacri.
Eh bien, vous arrivez à Paris en 74. Vous écrivez, je crois, des textes pour une agence de pub.
Oui, j'ai commencé en essayant de rentrer dans une agence de pub parce que j'avais le sens, enfin, je pensais avoir le sens des mots, du dialogue, du truc. Et donc je cherchais des slogans, je m'amusais à trouver des slogans. Donc
vous en avez trouvé d'ailleurs?
J'en ai trouvé comme ça pour présenter des...
Non, mais il n'y a pas des slogans connus
qui sont restés?
Ah non. Il y en a un qui a été repris, enfin, que je m'étais inventé tout seul et puis que j'ai vu 10 ans ou 15 ans plus tard parce que le mec l'avait le truc.
C'était lequel?
C'était très bête, c'était En avant la Mutzig. C'était une marque de bière.
Ah, vous assumez ce niveau de jeu de mots?
J'assume complètement.
Ça marche. Non,
puis j'ai fait ça pendant 3 mois. Enfin, vraiment, c'était en amateur. C'est le mec qui arrive à Paris qui cherche du boulot. Quoi.
Et surtout, le vrai déclic, c'est
le En avant la Mutzig, ça marche dans la bouche de Jean-Pierre Bacri.
Ouais.
N'importe qui me l'aurait fait, j'aurais dit non, mais franchement, au niveau de la vanne. Tu vois.
Mais l'assume.
Mais.
Non, mais ça, c'est une injustice totale. Les blagues qui marchent chez certains et pas chez d'autres.
C'est comme la vie.
C'est vrai. La vie n'est pas juste.
Alors, au-delà de la publicité, vous inscrivez surtout au cours Simon.
Oui, voilà, surtout.
Et, c'est une forme de découverte là aussi, parce que vous avez un accent prononcé.
J'avais un accent du sud, parce que tous les jaunes étaient des jaunes, les roses étaient des roses. Et donc, voilà, j'avais l'accent du sud. Et donc, il a fallu que je me discipline pour pouvoir jouer sans qu'on rie ou.
Un Victor Hugo, par exemple, avec l'accent du Sud, du coup, ça devient compliqué.
Comment ?
Un Victor Hugo avec l'accent du Sud.
Oui, parce que quand je suis arrivé, j'ai présenté après la bataille de Victor Hugo.
Et dans la foulée, vous écrivez aussi votre première pièce de théâtre. C'est un peu plus tard, je crois, c'est 77.
Oui, c'est ça.
Mais vous dites, voilà.
J'ai écrit une première pièce, oui.
Pourquoi ? L'idée, c'est quoi ? C'est de se dire, je veux me servir, je veux m'écrire des rôles.
L'idée, non, c'est que ça suit l'histoire des slogans. J'ai toujours beaucoup aimé le français, la langue française, et beaucoup les textes, écrire. Donc je me suis amusé à écrire des dialogues. Il n'y avait pas beaucoup de fond, donc j'ai écrit une première pièce avec pas grand-chose comme fond, mais j'avais envie d'écrire des vannes, des dialogues. Donc j'en ai écrit une, puis deux, puis trois. Puis...
Les vannes, souvent, on a une référence en termes de vannes. C'était le monde de la bande dessinée, c'était il y avait des humoristes qui éduqué à la vanne. Qu'est-ce qui vous fait rire quand vous étiez ado?
Mon Stevie Wonder de la bande dessinée, c'était Gottlieb.
Ah ouais, Marcel Gottlieb, formidable. Gottlieb,
je les ai dévorés tous.
Les rubriques à braque.
Tous les rubriques à braque, les dingos
dossiers.
C'est drôle.
En 1989, vous écoutiez Alain Souchon.
Je chante un baiser. Je chante un baiser osé sur mes lèvres déposées par une inconnue que j'ai croisée. Je chante un baiser.
Là aussi, l'amour des mots. Hein. Souchon, c'est vraiment l'amour des mots. Hein.
Souchon, personnellement, je trouve que c'est un des meilleurs paroliers du 20e siècle. Enfin, je veux dire, hormis évidemment Brassens, qui est absolument hors concours. Souchon, je trouve ça un très très grand parolier.
Oui, et puis avec un bon regard sur notre société, un bon regard sur la vie.
Extrêmement aiguisé, très pertinent. C'est un mec qui pense très bien et qui écrit très bien.
Que ce soit full sentimental et la société de consommation, ou si en plus il n'y a personne
sous
la religion.
Sous les jupes des filles, tout ça, c'est très très bien écrit. Vraiment.
Et alors on a choisi cette année 89 parce que 89, c'est Mes meilleurs copains, un film de Poiré avec Daroussin et Lanvin. Et une amitié qui se tisse, et puis aussi un tournage pas simple.
Un tournage pas simple parce que on s'entendait pas très bien. Ensuite, on s'est revus, ça allait très bien, mais on s'entendait pas très bien avec Jean-Marie Poiré. Moi, j'ai eu des moments difficiles avec lui. Et puis ensuite, on s'est revus, et j'aime bien ce mec-là parce que il a du fond, il est intéressant, ce mec.
Et il y a Lanvin et Daroussin surtout aussi, vos compagnons.
Ouais, que j'ai connu à cette époque-là, oui.
Et Daroussin reste un compagnon de route.
Qui est resté, bien sûr, oui, avec qui on a fait plein de pièces.
En 1993, Jean-Pierre Bacri, vous écoutiez...
Still, hitting them counters in them lumbos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the
street. C'est culte.
Est-ce qu'il y a des albums? Tout l'album est culte.
Et c'est une période...
C'est chronique de 2001.
Et chacun se retrouve à écouter Dr. Dre quelque part, Still. Et Jean-Pierre Bacri fait quoi en 93, Léla?
En 93, vous intégrez quelque part la bande des nuls pour leur premier long métrage, La Cité de la Peur. Ouais. Et ils vous font tourner dans leur premier film. C'est l'équipe. Et après, vous allez continuer avec Chabat, en 96, dans Didier.
Didier, oui.
Comment ils vous attrapent, les nuls?
Si je peux me permettre, c'est la même famille, petit-fils de Gottlieb, hein, aussi, Alain
Chabat.
Oui,
complètement, Chabat.
C'est la famille, ça.
Ah, oui, mais Chabat, de toute façon, on rit des mêmes choses, et à chaque fois qu'on se voit, ça n'arrête pas. En fait, je les ai connus parce qu'ils faisaient un truc qui s'appelait Les Nuls, l'émission.
Le samedi soir en direct,
c'était vraiment... Ça fout un trac fou. Et ils invitaient des acteurs un peu connus chaque samedi soir. Et un jour, j'ai fait leur émission. C'est comme ça que je suis devenu pote avec Alain, Chantal et Dominique. Et alors, c'est marrant parce que c'est quand j'ai tourné Didier, c'est là que j'ai découvert le rap, en fait. C'est le chauffeur, le mec qui me conduisait chaque jour, qui s'appelait Christophe Casanova, qui était un mec super. Et il avait du Dre, du Snoop et du Talib Kweli et des Roots, etc. dans sa bagnole tout le temps. Et je ne connaissais pas du tout cette musique, et ça m'a mis un... Enfin, j'étais KO assis, puisque j'étais dans la bagnole. Enfin voilà, j'adore ce son, enfin, quand c'est bien produit et bien foutu, évidemment.
Oui, on reçoit la Mireille Dumas du punk. Ouais, alors je sais, on est sur France Inter, ici on est plus Léo Ferré que Clo-Clo, et en même temps, t'as déjà essayé de danser sur du Léo Ferré dans un mariage. Voilà, même bourré, ça se danse pas. Donc voilà, vous venez nous parler de la face cachée de Clo-Clo. Alors qu'est-ce qu'on apprend dans le documentaire? Plein de choses, mais en même temps, Clo-Clo, il avait un peu tout dit dans ses textes. Par exemple, on peut le dire sans trembler, Clo-Clo était pas un grand bricoleur, et en même temps, il nous l'avait bien dit.
J'avais un marteau. Je cognerai le jour.
C'est pas très malin.
Je cognerai la nuit.
Ah oui, le jour et la nuit, déjà, a priori, les règles de bon voisinage, ils s'en branlent. On l'a dit, redit, on vient d'en parler, Claude François est né en Égypte. Et je suis pas complotiste, mais moi, je pense que Claude François, en fait, il était ch'ti ou breton.
La vie au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais.
Ah oui, évidemment, ça peut être que ça, il est né à Dunkerque. Alors, Claude François a aussi beaucoup pompé sur les Américains, sur la Motown. Mais ça aussi, il nous l'avait bien dit.
C'est la même chanson, mais la guitare, c'est
c'est qu'elle est moins bien.
Très dur.
Il faisait des versions. C'est l'un des rares à avoir fait des reprises qui étaient parfois meilleures que la version originale.
Pour vous en parler dans le documentaire, Karl, on apprend aussi pour ceux qui ne savaient pas que Clo-Clo était exigeant, voilà, tyrannique, non, juste très pointilleux. Ah bah ça, Clo-Clo, faut pas l'emmerder. Il fallait lui obéir au doigt et à l'œil sous peine d'avoir des sanctions irréversibles. Voilà, tyrannique et cannibale. Non, en revanche, il avait une hygiène de vie irréprochable. Il faisait très attention, en gros pas d'alcool, mais de l'eau. Peut-être beaucoup trop d'eau d'ailleurs. Est-ce que c'est pas un peu excessif de boire tout un fleuve si une fille revient pas? Tu vas assécher une région, assoiffer une population et puis surtout être en surhydratation. Alors, Clo-Clo, on vient d'en parler un petit peu. On l'apprend, il aimait le sexe et en même temps, c'est débile comme phrase.
Pourquoi?
Bah si tu connais quelqu'un qui a dit oh, moi je déteste le sexe. Non, franchement, j'aime pas prendre de plaisir dans la vie. Je veux dire, à part Philippe de Villiers peut-être qui bouchait une pompe pour procréer et encore il y avait pas d'urgence. Mais bon, bref, Clo-Clo, il aimait bien quand.
Il faisait zip quand il roulait, quand il tournait, quand il marchait.
Et vous le balancez dans le cul et on vient d'en parler. Claude François aimait les filles jeunes. Il le dit lui-même, entre 15 et 17. Au-delà, ça l'intéresse plus. Pour Jean-Luc Lahaye, c'est déjà des cougars. Et en même temps, est-ce que ça vous surprend?
Raconte-moi.
Oh non,
non, non, pas les enfants, non, 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 non.
Objection. Là, je propose une coupure d'antenne.
Apprends-tu bien chaque soir toutes tes leçons? Au moins, il y avait un service après-vente. Voilà, et en même temps, il s'en cache pas.
Si les apparences sont quelquefois contre moi, je ne suis pas ce que l'on croit.
Il faudra l'expliquer au juge. Alors, un Clo-Clo qui a une part d'ombre, et Clo-Clo et moi, finalement, on a un peu le même défaut, c'est qu'on se tape l'incruste. Alors, Nagui.
Je viens dîner ce soir.
T'es bienvenu, merci.
Vous l'avez découvert à l'occasion du documentaire, vous, par exemple, Carl Zéro?
Non, je le suis bedoré un peu, mais je pensais pas que ça allait aussi loin. En même temps, à la décharge de feu Clo-Clo, il faut dire
une
chose.
Je suis pas sûr que ce soit le bon mot, mais bon.
Ouais. Sacré Nagui. Je dirais que il y a une des Claudettes, une ancienne Claudette qui nous le dit, une jeune fille qui a comme ça 15 ans ou moins, elle est déjà femme. Et elle a envie de se prouver des trucs.
C'est Prisca qui dit ça.
Et voilà. Et aussi le fait d'être, je veux dire, même si c'est dans les bras d'une aussi immense star à l'époque, c'est quand même glorifiant et elle va pouvoir vis-à-vis des autres.
Mais c'est pas la question. C'est pas la question que ce soit glorifiant ou pas. C'est que c'est un.
Non, mais il faut comprendre que les jeunes filles peuvent être attirées par ce genre de mec.
Ah oui, non, mais l'attirance, ça je comprends complètement. Mais ensuite, que l'adulte qui est Claude François, donc qui exerce un pouvoir de séduction au-delà de la normale, parce qu'en effet, c'est une vedette, et qui a face à lui des jeunes filles qui sont dans ce désir-là, ça je peux l'entendre, comme il y a plein de jeunes filles qui vont à des concerts et qui regardent les artistes avec beaucoup de désir, mais la nuance c'est que l'artiste dit « Ah ben non, je joue pas dans cette catégorie. »
Ça va pas être possible aujourd'hui.
Oui.
On va attendre
que tu reviennes dans 15 ans.
Non mais lui, voilà. Ce que l'on sent dans le doc, c'est qu'il avait peur de vieillir, qu'il a peur de la mort, la manière dont
ça
il en parle.
La peur de la mort.
Est palpable. Oui.
Elle est effectivement, il ne parle en fait en interview, dès qu'on le pousse un peu, il se met à parler de la mort.
Incroyable. Ouais.
Donc il pressent quelque part qu'il va pas durer très très longtemps. C'est pour ça qu'il met les bouchées doubles. Il faut aussi dire autre chose, c'est que même physiquement, il a un corps d'adolescent toute sa vie et dans sa tête, il a 15 ans toute sa vie. Donc je pense même que si il a des relations sexuelles avec des très jeunes filles, c'est parce qu'il pense qu'il a le même âge. C'est et assez curieux, même s'il a 40 ans.
Enfin, si la jeune fille, c'était votre fille, je pense que l'explication de la peur de la mort et j'ai un corps d'adolescent...
Je suis pas du tout en train de le défendre. Ah ouais. Hein, moi, je vous raconte juste ce qu'il y a dans ce documentaire.
Ni en train de l'attaquer non plus, parce que la manière... il a peur de la mort, il est attiré par le jeune âge, il est très, très apprêté, maquillé, coiffé, tiré à quatre épingles, et...
maniaque.
Vous dites à propos, malheureusement maniaque, c'est ce qui le mènera à sa perte. Et vous le dites aussi dans le doc, la manière dont il a eu ses enfants et dont il appelle d'ailleurs son premier fils Claude pour que Claude François continue d'exister. C'est une manière pour lui, et il le dit clairement dans l'interview.
Mais absolument.
Continuer de vivre après sa mort à travers ses enfants.
Il a une peur panique de la mort et il se dit qu'au travers de ses enfants, eh bien son image continuera. Et c'est la réalité. Il vend plus de disques aujourd'hui que quand il était vivant. Et moi qui à l'époque, alors franchement, je le trouvais horriblement ringard quand je le voyais à la télé. Je coupais, quoi. Et d'ailleurs, il était tout le temps à la télé, donc c'était insupportable. Finalement, avec le temps, 40 ans plus tard, je me rends compte...
Il est culte.
Ouais, et je vois à quel point il est extraordinaire. Il n'y a aucun autre exemple, hein.
Mais c'est pas pour ses performances, parce qu'il avait quand même une voix insupportable.
Il avait non, c'est pour son énergie.
Si, je peux le dire, je peux le redire, même, il avait une voix insupportable.
Non. Mais il le savait, qu'il avait une voix nasillarde et qu'il chantait et qu'il chantait pas super bien. Mais en même temps, il avait une énergie folle.
Un rythme
de dingue.
Et puis, il a
un rythme. Faut pas oublier que c'est un ancien batteur percussionniste, vous le dites dans le doc. Et c'est de là que vient sa rigueur du tempo.
Et puis l'Égypte aussi.
Et
son enfance égyptienne.
Ah bah justement.
Quel enchaînement.
L'Égypte des oreillers des produits bizarres. Quand même.
La bande originale, le best-of sur France Inter.
Stop, on arrête tout. Non. J'ai une très très grosse envie de musique. Une envie de Calypso Valois avec Apprivoisé. C'était Calypso Valois, le meilleur de la bande originale, et ça continue bien sûr avec qui déjà? Ah oui, avec Tanguy Pastureau.
Oui, et c'est normal parce que Macron est jeune, il est beau, on a envie de lui faire l'amour. Rien de penser à lui, j'ai le corps à 60. Là, si vous me posez une côtelette sur le front, on peut démarrer un barbecue. Quand il signe ses ordonnances pour modifier le droit du travail, chacun pense à la vie qu'il aurait s'il signait un contrat de mariage avec Macron. Voyage de noces à la bourse de Tokyo, seul lieu où Nikkei est un indice et pas une proposition. Connexion en amoureux au site Boursorama Bank. Et coup de fil à Neymar pour lui dire « Mon pote, t'es rien qu'un blaireau euros avec ta Maserati MC12. Là, on est dans la 330 de Manu, à 913 km/h en vol. On te voit tout en bas. Ah, ça y est, on te voit plus. Bref, Macron est irrésistible. Il pourrait piquer Raquel Garrido à Mélenchon juste en lui disant, bébé, toi plus moi plus la révolution ce week-end à Caracas. Et ses ministres, eux aussi, l'adorent normal. On vénère toujours le leader de la structure pour laquelle on bosse. Ainsi, chez moi, j'ai un hôtel avec des bougies et une photo de Nagui découpée dans le télé-Z, devant laquelle je me prosterne en murmurant « Un jour, tu m'aimeras autant que tu aimes Daniel Morin ». Jeudi, le magazine Le Point a fait un portrait de Macron. Hein, l'or 420e, il le kiffe autant que les Inroc aiment Pascal Clark. Alors, il demande à Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, ce qu'il pense du président. Or, l'autre est un fan transi. Hein, quand il voit Macron, il subit la même explosion hormonale qu'une ado de 13 ans qui verrait Soprano ou que François Bayrou quand il croise son reflet dans le miroir. Et là, Castaner déclare « Tout chez Emmanuel est fascinant. Son parcours, son intelligence, sa puissance physique. » À titre de comparaison, moi j'ai 43 ans. Le maximum qu'on ait dit sur moi, c'est « Ouais, il est sympa. Hein, ma belle. » Alors Castaner et la puissance physique de Macron, on a plus en tête les images de Top Gun quand les gonzes jouent au volet torse-poil au soleil que celles de deux types dégustant des chouquettes au Conseil des ministres. Et Castaner ajoute « Il m'a mis des étoiles plein les yeux hein, ». C'est plus un type, c'est un hôtel Mercure. Et dit-il « J'assume cette dimension amoureuse. Wow. Rien que ça, le v'là amoureux. Le pire truc qui puisse arriver au travail. D'où la maxime « No job in job ».
Ouais, mais là, non, tout paraît normal.
Oui, puisque Macron ne s'est pas entouré de collaborateurs, ouais, mais de fans. Il a la vie de Maria Carré. Une photo de groupe, c'est lui qui regarde le photographe. Et c'est 22 sbires qui se tapent un orgasme juste en le regardant lui. Il a relancé le sextantre. Bref, Castaner est in love. Hein, quand sa femme lui dit « Oh, Christounet, j'ai reçu ton texto avec écrit « Je te veux ce soir, je suis très chaud et je voudrais que tu saches que moi aussi », lui répond « Mets ta bouche, morue, je me suis trompé, c'est à Emmanuel que je voulais l'envoyer. Oh, mon Dieu !» Enfin, Emmanuel, ça veut dire que lui a eu le SMS te disant de racheter du PQ. Et hier, dans le JDD, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, ce qui est logique avec un nom pareil, dit lui à propos de Macron...
Non, on a dit pas. Pas les affaires.
On n'avait rien dit, sinon j'aurais pas signé. Gérard Collomb dit à propos de Macron, on s'adore, notre relation est fusionnelle. Hein, ils sont aussi unis que Paul et Virginie ou Florent Pagny et le Portugal. Heureusement, il ajoute, c'est une relation filiale. Ouf, enfin, pour qui c'est pas sexuel. Hein, il s'est juste découvert un fils, il va lui acheter une gourmette à sa majorité et lui a déjà dit, tu sais, mon devoir de papa est de te dire de te protéger. Hein, on sait jamais, si Castaner va au bout de sa démarche, il est bâti comme un tank, le temps de te dégager, il t'aura montré la dimension de ses sentiments. Et là, Collomb ajoute, la sortie sur les feignants, Macron aurait pu s'en passer. Alors c'est historique, c'est le premier de l'entourage du président à émettre une critique contre lui. Wow. Hein, c'est comme si chez les Raéliens, un mec disait à Raël, pardon, mais les aliens, c'est comme le livreur Chronopost, vous nous dites tout le temps qu'ils arrivent, ils sont jamais là. Alors Collomb s'est ensuite excusé auprès de Macron en lui disant, je t'aime mon ange, tu es beau et puissant et bien coiffé et stylé et t'as un QI de 400, pardon pour ces 4 secondes de doute que j'ai eues, là tu ne me vois pas, mais je me flagelle. Puis Gérard Collomb hier s'est rendu à Marseille, où deux jeunes femmes ont été tuées par un déséquilibré dont les voisins diront bientôt qu'il était gentil, il portait les packs d'eau de la vieille dame du 3e étage, une monotonie de la barbarie à laquelle on s'est habitué, nous, Collomb, Castaner, eux pour oublier ça ont l'amour, ils pensent à Macron et se remettent à rêver des rêves chauds et mouillés, alors je nous souhaite à tous d'avoir autant d'amour dans nos vies, qu'en ont ces gens qui nous dirigent pour eux-mêmes.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Ta mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ta mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso.
Qu'est-ce que bella ciao vous évoque quand vous l'entendez comme ça?
Bah, si.
De l'avoir entendu à la maison?
Ah oui, oui, bah oui.
Le capitalisme, toutes ces choses, quoi.
Bah, c'est l'Italie, donc c'est ma famille. Et puis, moi, je viens d'une famille, les Italiens, à l'époque, ils étaient très militants, gauchos, etc. C'est la culture familiale.
Et votre première envie de job quand vous étiez petite, c'était d'être employée de péage. J'ai lu ça.
Eh ben c'est vrai.
Alors René, à Macron. Non,
mais, 4000 à 50000.
Ça m'a fait beaucoup.
Parce que les péages en Italie avant l'euro, il y avait des sommes totalement dingues quand t'arrivais
au péage.
Mais oui, je
sais. Parce qu'on disait allez, je te donne 10000 lire, va t'acheter une glace.
Bah oui. On avait un franc, c'était génial, mais 10000 lire.
Et pourquoi cette envie d'être employé de péage, Marina?
Je n'ai jamais compris moi-même. J'étais fascinée, je me disais mais comment ils arrivent là, vu que moi je suis au milieu de l'autoroute. Je vois bien que c'est très loin de... Je ne comprenais pas. Et je sais pas, je... Oui, pour avoir des tickets et des pièces.
Comment les employés...
Oui, comment ils arrivaient jusque-là.
Non mais c'est dingue parce que c'est un fantasme assez récurrent chez les enfants en fait.
Ah bon?
Moi j'ai voulu et la fille de la copine... Mais oui, parce qu'il y a un truc...
Tu t'appelles Marina aussi.
Ça va, Marina.
Non mais je connais d'autres gamins petits.
Vous êtes peut-être un clone de moi, vu que vous avez beaucoup d'années de moins.
Peut-être, il s'est passé un truc. Non mais c'est un truc de, je sais pas, jouer à la marchande et puis t'as l'impression que tout le monde est sympa. Je sais pas, il y a un truc...
Enfin c'est quand même chelou comment on vient.
Non, c'est étrange, ouais.
Non mais après, heureusement, vous avez rencontré votre babysitter, j'ai envie de dire.
Enfin, oui.
Et là, il y a eu une autre vocation.
Voilà, oui. Après, j'ai voulu être actrice. Je suis passée direct de péage à actrice.
Péage à actrice, c'est pas mal, c'est pas mal.
Quel est le rôle de la babysitter?
Bonsoir à toutes les actrices qui maintenant travaillent au péage.
Ou qui sont babysitter.
C'était un babysitter, c'est ça qui faisait?
C'était le babysitter, il habitait dans la rue, quoi, et il venait me garder. Lui, à l'époque, il devait avoir 18 ans, il préparait le conservatoire avec son mec. Et donc, pour gagner de l'argent, ils ont monté un cours de théâtre pour enfants. Donc, j'ai commencé à faire ces cours de théâtre.
Mais quel âge?
5-6 ans.
D'accord.
Ouais, j'ai eu comme une révélation.
C'était par amour.
Enfin, c'est ce que me disent mes parents. En vrai, je m'en souviens pas, mais je me souviens des cours de théâtre. Et après, je me souviens pas avoir dit autre chose que je serais actrice.
Vous n'avez pas de souvenir de quand vous aviez 6 ans, par exemple? Rien.
Mais si, pourquoi?
Non, vous dites, je m'en souviens pas.
Non, je ne me souviens pas avoir dit à 5 ans, je vais être actrice. D'accord. C'était pas aussi. Mes parents racontent que j'ai dit
formulé.
Ça très tôt.
D'accord.
Mais en tout cas, assez jeune, vous traîniez, vous racontez ça à Nanterre, aux Amandiers. Donc, je comprends mieux aussi ce petit goût pointu aussi pour le théâtre.
Parce que ma mère, il y avait une amie de mes parents qui s'appelle Marie Langlois, que j'aimais beaucoup, qui tenait à la librairie du théâtre des Amandiers, donc dans le hall. Donc, elle m'a fait voir, je sais pas, j'ai vu des tonnes de spectacles. Ouais, je me suis. J'ai appris quand même pas mal comme ça.
Ouais, en observant.
Et c'est vrai que vous avez appris à embrasser aussi avec le théâtre?
Oh, ouais, mais ça, c'était. J'avais un prof pervers. En fait, aujourd'hui, j'irais le dénoncer. Un prof de théâtre qui faisait l'impro du baiser.
Avec
ce qui
lui?
N'a pas de sens. Il choisissait dans la classe deux personnes. Il disait, vous montez sur scène et vous vous embrassez. Moi, j'avais même pas 16 ans, je crois. Donc, j'ai fait ce qu'on me dit. Et je me souviens que c'était Samuel Le Bihan.
Ça va.
Qui, à l'époque, était... Oui. Et donc, j'ai été forcée de rouler une pelle. Mais je vois pas que ça apprend de quoi.
C'est pas un French kiss. On n'est pas obligé de rouler une pelle.
Ben, si vous voulez...
Vous avez fait du théâtre, Nagui? Alors, s'il vous plaît.
Oui.
Mais tu mets pas la langue.
Non, mais bon, on va pas rentrer dans le détail. Bah, mais si. Même toucher la bouche, enfin, mettre ma bouche dans la bouche de quelqu'un d'autre à 15 ans, tout ça. Je vois pas ce qu'on apprend. Je vois pas quelle sorte de formation d'acteur c'est.
Et personne ne refusait.
Non.
Personne ne disait non.
Parce que ce qu'on
apprend, Marina, c'est justement qu'il faut pas mettre la langue. C'est ça qu'on apprend dans les cours de théâtre.
Si vous saviez ce qu'il faut faire pour être stagiaire dans cette émission.
C'est
pas toujours des lobbyants.
Hein. J'ai de la famille qui travaille à France Inter. Je sais par quoi elle est passée. Oui.
Mais à 15-16 ans, on se dit pas, non, j'embrasserai pas sur la bouche.
Ah non, j'ai dit oui.
C'était Samuel Le Bihan en même temps.
Oui. Mais...
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Le meilleur de la bande originale, ça continue encore jusqu'à 18h. C'est l'humeur de Frédéric Sigrist.
Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais vous parler de ces hommes et de ces femmes de l'ombre. Celles et ceux que l'on appelle les gendarmes du PAF.
Oui.
Hein, ce qui pourrait être le titre d'un des films que l'on trouve dans la DVD-tech du Père Albert.
Ah, oui,
mais ce matin,
vrai.
Ça n'a rien à voir. Je vais vous parler du CSA. Quelle le drogue. Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Ah oui.
C'est une sorte de proviseur pour animateurs de télé ou de radio un petit peu dissipés. Hein, au moindre excès, le CSA reçoit un signalement, ça se passe comme ça.
On nous signale un 633 sur France 2. Je répète, on nous signale un 633 sur France 2. On demande une intervention immédiate.
Un 633, c'est un comportement susceptible de choquer les téléspectateurs. Alors aussitôt, t'as deux officiers du CSA qui sautent dans leur voiture, gyrophare sur le toit, ça grille des feux rouges et une fois sur place, c'est
Michel Simès, rendez-vous. Ce plateau de télé est cerné. Lâchez immédiatement ce spéculum et mettez les mains en l'air. Nagui, de votre côté, remontez votre pantalon. Même au nom de la médecine, on peut pas tout montrer.
Salut.
Voilà, enfin, ça se passe pas exactement comme ça. Non. Je schématise. Le CSA qui, en ce moment, ne sait plus où donner de la tête. Ah, ils avaient déjà un département entier consacré aux émissions de Cyril Hanouna. Hein, 253 personnes qui bossent rien que là-dessus. Hein, y a beaucoup de monde parce que le ministère de la Santé a préconisé des tours de garde très très courts. Hein, parce qu'une exposition prolongée et tu termines avec des couches nourries par une sonde. La semaine dernière, c'était Laurent Baffy. Hein, Laurent Baffy, qui, on le sait, est aux bonnes manières ce que je suis au pantalon slim. Hein, il avait osé mettre la main sur la cuisse et remonter la jupe de la chanteuse Nolwenn Leroy. Alors ok, c'est crétin, c'est malvenu, c'est vraiment pas l'idée du siècle, mais Nolwenn Leroy a quand même précisé, et ça a son importance, qu'ils étaient amis dans la vie et que c'était pour cela qu'elle n'en prenait pas ombrage. Moi, pour tout vous dire, ce qui m'a choqué dans cette séquence, c'est que quand t'entends chanter Nolwenn Leroy, tu te dis que la main, c'est pas sur sa cuisse qu'il faut la poser, mais sur sa bouche.
Non, ça va.
Samedi dernier, c'était... Ah, on sent une prochaine invitée à ta radio.
Je te confirme.
Samedi dernier, c'était l'émission de Laurent Ruquier qui provoquait un nouveau scandale. L'émission On n'est pas couché, mais en même temps, on n'est pas non plus obligé de la regarder, où des réalisateurs, chaque semaine, des réalisateurs de films, se font juger par Yann Moix, le gars qui a réalisé Cinéman avec Franck Dubosc, et où les auteurs se font démonter par Christine Angot, la femme qui a failli me rendre François Fillon sympathique. Samedi dernier, Sandrine Rousseau, une ex-membre d'Europe Écologie des Verts, était venue présenter le livre dans lequel elle raconte l'agression sexuelle qu'elle aurait subie par Denis Baupin. Sujet hyper touchy. À chaque fois, je me demande toujours si c'est le genre d'émission dans lequel il faut parler de ça. Mais j'imagine bien qu'un éditeur a dû lui expliquer que ça serait une bonne idée. Écoutez, Sandrine, je sais qu'on vous en demande beaucoup, mais une minute de lynchage chez Ruquier, c'est 200 000 exemplaires le lendemain sur Amazon. Si Christine Angot vous crache à la gueule, on sera au niveau de Fifty Shades of Grey. Si vous ne le faites pas pour vous, Sandrine, faites-le pour l'édition. Et ce qui devait arriver, arriva, une victime d'agression sexuelle qui tente de parler devant deux chroniqueurs qui sont eux-mêmes en psychothérapie depuis 35 ans et dont une qui a également subi une agression dans son enfance. Résultat, une séquence extrêmement gênante, signalée plus de 1000 fois au CSA, notamment par Marlène Schiappa, la secrétaire chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes. Séquence durant laquelle deux tortionnaires expliquent à une victime d'agression ce qu'elle aurait dû dire ou écrire. Et depuis, sur le net, tout le monde tombe sur le dos de Christine Angot et Yann Moix, sans réaliser qu'ils ont juste fait ce que la production attendait d'eux. C'est un malin, Ruquier. Il a délocalisé les saloperies qu'il a à dire. Coluche balançait à propos de la publicité. Dire qu'il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça se vende pas. Aujourd'hui, ça pourrait devenir dire qu'il suffirait d'éteindre sa télé pour pas avoir à s'en plaindre au CSA.
La bande originale, le best-of sur France Inter.
Attendez, partez pas, c'est pas encore fini. Non. Oui, y a moi. Alors déjà, bonne nouvelle, même excellente nouvelle. C'est qui revient sur C8?
Pascal
le grand frère. Ouais, la nounou au crâne rasé qui chope les ados par le col. Ça, c'est un gars qui en a dans le froc. Mmh. Pour le premier numéro, il va s'occuper de Florian et Thomas, deux jumeaux hyper violents qui habitent le Périgord. En même temps, quand t'es ado et que t'es bloqué dans le Périgord, tu m'étonnes que tu deviens violent. Il tuera des gens, je leur jetterai pas la pierre, hein, jumeaux maléfiques. Imagine leur vie. Déjà, si t'aimes pas le foie gras ni le confit, bah tu meurs. Tu meurs de faim, y a rien d'autre. Non mais c'est sûr, faut que les gosses, ça marche droit, faut que ça file doux. Il va te les calmer, le Pascal, hein, il va arriver, il va regarder les vidéos, et les deux débuts, ils insultent leurs parents, il va débouler comme une fusée. Ce qui est bien, c'est que le Pascal, il laisse rien passer. Surtout, il parle comme eux. Il gueule et puis il se détend. Il emmène les gamins discuter de leurs problèmes dans la nature.
Voilà.
T'as vu comment tu parles à tes parents, t'as vu? Oh putain, t'en as rien à foutre, quoi? T'en as rien à foutre, regarde-moi que je te parle, regarde-moi! Du coup, cette nouvelle m'a un peu angoissé. Pour me calmer, j'ai pris une tisane au shit, ça m'a anesthésié direct. En 2 minutes, je dormais comme un chien mort. Et moi, quand je dors comme un chien mort, eh ben je rêve. Je rêvais que j'étais chez moi en train de regarder Les Amours pendant que Leïla m'épilait le torse.
Ah oui, tiens.
Quand d'un seul coup, on sonne à la porte, Leïla sursaute, elle m'arrache une bande de cire, un téton avec. Aïe! J'ouvre la porte, nom de Dieu, c'était Pascal le grand frère. J'entame la conversation. Asseyez-vous, je vous en prie. Le gars s'assied pas. Il me regarde fixement comme un hibou. Moment pile poil où j'allais enchaîner pour lui proposer un drink, il me saute pratiquement dessus. Pourquoi tu parles mal dans tes chroniques? Pourquoi tu dis de gros mots? Enfin, je dis pas, tais-toi, tu manques de respect à Nagui en plus. Tu lui parles comme s'il était idiot. Non, mais je vous explique, en fait, c'est un jeu. Il n'est pas drôle ton jeu, tu dois respecter Nagui. Grâce à lui que tu travailles. Viens, on va discuter dehors. Vas-y, parle-moi de tes problèmes relationnels. Pourquoi t'es comme ça avec Nagui? Ben, en fait... Non. En fait, il y a quelques années, quand Frédéric Lopez a quitté France Inter, je me suis senti trahi. J'ai pris ça pour un abandon. Et pourquoi tu fais payer Nagui, il a rien fait? Je sais pas, c'est sûrement ce que je vois à Frédéric Lopez en Nagui, ils se ressemblent tellement tous les deux. Tu vas arrêter de l'embêter, Nagui ? Ouais, c'est vrai que c'est injuste de ma part. Ah, demain, tu vas lui dire, tu l'aimes, tu lui fais un béco. D'accord, mais sans la langue. Ah bah si.
Non.
Ah bah si, quand on aime, on met la langue, hein. On peut demander à Madame Nagui d'être là aussi. Non. C'est entre toi, lui. Bon, chelou mon rêve, c'est vrai.
Oui.
Hyper chelou. Non, parce que si ça marche, ce serait intéressant de voir Pascal le grand frère débarquer chez Mélenchon. Quoi, qu'est-ce que vous me voulez ? C'est toi Mélenchon, c'est toi qui parles mal de Macron ? Absolument, c'est un traître. Non ! Tu te prends pour qui pour parler comme son président ? Mais enfin, tu m'écoutes maintenant ! Tu m'écoutes, tu l'enfermes ta gueule ! Mais non ! Viens avec moi ! On va parler dans les bois. C'est quoi le problème avec Macron ? Pourquoi t'es méchant avec lui ? En fait, c'est parce que je voulais être président de la République, c'était un rêve de gosse et j'ai l'impression qu'il me l'a piqué. Voilà. Ça n'a rien à voir, c'est pas sa faute ! C'est la décision du peuple ! Tu sais quoi ? Tu vas aller le voir, tu vas t'excuser ! Ah non, je peux pas... Non, vite ! Tu vas laisser t'asseoir dans ton fauteuil du président, tu vas voir, il va être sympa avec toi ! Tu crois ? J'en suis sûr ! Bon, ok, j'irai le voir demain. Merci, grand frère. Non, de rien, mais allez ! Viens faire béquoi, Pascal ! Ah non, pas la langue. Bah si, hein, seul tarif ! Ouais, chelou aussi, ce rêve-là. Hein.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Le meilleur de la bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. Une bande originale réalisée par Marie-Annick Rimbaud. On se retrouve demain, même endroit, même heure. En attendant, petite douceur arc-en-ciel de Polo et Pan.